Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque vendredi après-midi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et mon Dieu, comme on a besoin de la réflexion des rabbanim en ce moment, on est entre Rosh Hashanah et Kippour, et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Eli Lemel, bonsoir, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Et Gmar Chatzimah Tova, puisque exactement, nous sommes donc à quelques jours de la fête de Kippour. Et je précise d'ailleurs, sous votre contrôle, que Gmar Chatzimah Tova, ça veut dire qu'on espère qu'on va avoir une bonne signature, parce que c'est en ce moment que ça se décide dans le livre de la vie. C'est ce que dit notre tradition. Les choses seront scellées, en tout cas pour beaucoup scellées, à Yom Kippour. Alors, on dit justement que cette période est, la moment, est celle de l'introspection, de la mise au point. Mais finalement, peut-être qu'on utilise un peu ces mots sans trop savoir quel est leur sens. Et donc, je vous pose la question, Rav Eli Lemel, c'est quoi une mise au point pour nous? Qu'est-ce que ça signifie?
Alors, c'est vrai que c'est une période extraordinaire, si on réfléchit. C'est un cadeau qu'on a, puisque c'est le moment dans lequel on peut recommencer ce dialogue avec soi-même, et un dialogue tranquille, serein, paradoxalement, parce que tout simplement on va poser les choses. Vous savez qu'il y a marqué dans c'est le dernier enseignement de la Maseret Yoma, du traité qui nous parle de Yom Kippour, du traité Talmudique qui nous parle de Yom Kippour, et le nom d'ailleurs c'est Yoma, le jour par excellence. Et alors, la fin de ce traité, il y a cet enseignement de Rabbi Akiba. Amar Rabbi Akiba, Rabbi Akiba dit « Ashrechem Israël, comme vous devez être heureux peuple d'Israël, devant qui vous vous purifiez et qui vous purifie ?» Et il donne donc cette idée que, eh bien, le mikvé, paradoxalement, c'est-à-dire, pas paradoxalement, le mikvé d'Israël, c'est-à-dire le bain rituel du peuple d'Israël, eh bien, c'est le créateur de l'univers, comme il y a marqué « Mikvé Israël Hachem », le mikvé du peuple d'Israël, c'est Dieu. Alors, le terme de mikvé provient de la racine kavé, kavé qui veut dire l'espoir, l'espérance, tikva, c'est l'espérance. Donc, on est en train de nous dire, au fond, notre espérance, elle se situe justement dans ce qui va se jouer avec Dieu le jour de Kippour, et à l'image du mikvé. Alors, on va essayer d'imaginer une situation classique. Je vais rendre visite à des personnalités, et évidemment, je mets mon beau costume. Très sincèrement, généralement, quand on va dans des réceptions, on garde sa veste, ça se fait. Donc à la limite, si ma veste, en dessous de ma veste, j'ai une petite tache sur la chemise, mais que la tache est cachée par la veste, c'est pas grave, puisque je n'enlèverai pas ma veste. Quand par contre, je vais aller chez des amis, là, je vais sans doute tomber la veste, là, il vaut mieux que la chemise soit propre. Et si je vais chez le médecin, par contre, il faut être sûr d'être propre de partout, n'est-ce pas ? Au fond, c'est quoi le mikvé? C'est le moment dans lequel on se dénude complètement, comme si on était chez un médecin. Et quand on est chez le médecin et qu'on a un petit bobo, généralement, on lui raconte tout. On lui raconte tout. Non, parce que vous savez, c'est vrai que j'ai un petit peu mal là, mais à l'orteil gauche, de temps à autre. Et ici, pourquoi? Parce qu'on veut qu'il ait le maximum d'informations, parce qu'on a envie qu'il règle le problème. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cette mise au point qu'on va faire, c'est le fait que le jour de Kippour, eh bien, on se retrouve et on parle à Dieu. On lui dit, écoute, voilà, on enlève la veste, on enlève la chemise, on est là, totalement là. Et au fond, si on réfléchit, c'est génial, parce que mon voisin de droite, il est en train de faire la même chose. Mon voisin de gauche, il fait la même chose. C'est-à-dire qu'on sait qu'on est tous en train de dialoguer avec Hachem. On est tous en train de lui raconter un petit peu ce qui se passe, ce qui va, ce qui ne va pas, quels sont les points sur lesquels on se rend bien compte qu'il faudrait qu'on évolue, quelles sont les erreurs qu'on a pu faire cette année, quels sont les engagements qu'on avait pris qu'on n'a pas vraiment réussi à tenir. Chacun dans son domaine, le rav, le rabbin devant, moi à l'extérieur, l'autre ici, l'autre... C'est génial, au fond, si on réfléchit, c'est un moment extraordinaire, parce que d'abord, on se rend compte qu'on est tous concernés. Et d'ailleurs, on le voit bien dans tous les textes, on parle de nouveau beaucoup au pluriel, parce qu'on est tous concernés, et ça, c'est déjà le premier point. Le premier point, c'est de réaliser qu'on a cette chance de pouvoir imaginer un futur, parce qu'à l'instant où nous sommes, eh bien, on entreprend cette démarche de dialogue avec le créateur de l'univers, on est en train de ne plus avoir peur de dire, de découvrir et d'exprimer tout ce qui se passe, tout ce qui se joue à l'intérieur de nous. Ça, c'est au fond le point central, à mon sens en tout cas, et qui est illustré parfaitement par ce propos extraordinaire de Rabbi Akiva qui dit « Mais Ashrechem, quelle joie, quel bonheur au fond !» On le sait toutes et tous. Dans la vie, ce qu'il y a de difficile, c'est de garder ce qu'il y a à l'intérieur de soi, ces éléments qui nous perturbent un petit peu par rapport à nous-mêmes. On aimerait bien déposer à un moment ça devant nous. Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours d'amis suffisamment proches qui seront là et qui pourront être à l'écoute de notre parole sans aucune forme de jugement et qui ne poseront pas sur nous un regard différent une fois qu'on leur aura raconté. Il y a quelque chose ici qui est d'une forme de soulagement. Ça, c'est déjà au fond ce premier travail de mise au point. Et puis après, et là, ça, on rentre dans quelque chose de beaucoup plus subtil, ça va être comment faire pour aussi découvrir les éléments qui pourraient être changés chez nous et sur lesquels, eh bien, on n'a peut-être pas nécessairement conscience. Et je voudrais vous citer un texte, justement dans la paracha que l'on vient de lire, enfin, qu'on vient de lire, le jour de Kippour, on pourrait dire qu'on vient de la lire, et ce texte est assez incroyable. C'est le moment dans lequel Dieu s'adresse au peuple d'Israël, et il leur dit, c'est Moshe, pardonnez-moi, qui s'adresse au peuple d'Israël à travers ce fameux texte de Haazinu, et il décrit un petit peu pas mal de choses qui ne vont pas. Et à un moment, il va dire, « Dor Ikesh Upetaltol, vous êtes un peuple qui est buté parfois et qui est un peu tordu. » Et alors, regardez ce qu'il dit. On a ici un commentaire qui est le commentaire du Notziv dans les Megdavar qui dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, au fond, vous allez dans des chemins qui ne sont pas les bons et concrètement, tout est mélangé, le bien, le mal. Et les termes qu'il utilise sont extraordinaires. Il dit, « Veux cacher la fride hatov minara, bacher hara naselem lechem shamayim. » Et on ne peut même plus distinguer ce qui va de ce qui ne va pas, parce que même ce qui ne va pas, ils le font, mais ils sont persuadés qu'en vérité, c'est comme ça qu'il faut agir. Et là, on rentre dans quelque chose de plus subtil. On rentre dans l'univers dans lequel l'individu peut à un moment dysfonctionner, mais se persuade qu'en vérité, ce qu'il fait, c'est la bonne chose. Et ça, on va le trouver énormément dans quoi ? Dans la relation aux autres. C'est-à-dire dans la relation à Dieu. C'est vrai qu'à un moment, se dire « je ne mange pas cachère, mais en vérité, c'est pour la bonne cause », c'est un peu borderline. Se dire qu'on ne va pas faire Shabbat, mais c'est pour la bonne cause, certains y arrivent. Certains disent « non, mais vous comprenez, c'est pour la famille, c'est très important, etc. etc. » On peut arriver à le faire parfois sur certaines choses. Par contre, là, on est spécialiste, toute catégorie confondue, champion du monde, c'est en effet dans la manière dont on fonctionne vis-à-vis des autres. Et donc, on n'arrive plus à avoir une vision clair des choses, une vision dans laquelle on est capable de se dire « mais ça, ce n'est pas de cette manière dont on devrait agir, ce n'est pas comme ça qu'on devrait fonctionner » et c'est là-dessus où, en effet, il y a un travail à faire le jour de Yom Kippour. On sait que le prophète dit à propos de l'être humain « shiftecha betoch mirma », qu'on est installé dans notre mensonge. Alors, il n'utilise pas là-bas le terme de sheker, c'est-à-dire le vrai mensonge. Vous savez, quand je dis à l'autre « c'est blanc alors que c'est noir, je l'ai fait alors que je ne l'ai pas fait ou je vais le faire alors que je sais très bien que je ne le ferai pas ». Non, mirma, c'est une forme de mensonge mais qui n'en est pas tout en étant. C'est à un moment naviguer comme ça en eau trouble et dans lequel on se raconte des histoires à soi-même. Or, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le jour de Kippour, c'est un moment où justement, on est tous là en train de raconter, non pas la même histoire, mais le même principe. Nous ne sommes pas dans une dimension de perfection, loin s'en faut, qu'on soit bien clair. On s'interroge, mais pourquoi il y a certaines choses que je ne veux pas faire ? Pourquoi au fond je ne veux pas faire Shabbat ? Pourquoi je ne veux pas manger kasher ? Pourquoi je ne veux pas mettre les téfilines ? Pourquoi je n'ai pas envie de pardonner à l'autre ? C'est intéressant, c'est génial, parce que c'est se retrouver véritablement dans un dialogue avec des tentatives de réponse qui parfois seront très intéressantes, mais qui sont l'expression d'un désir de tendre vers quelque chose de nouveau, vers une version peut-être un peu plus améliorée de soi-même, et ce, dans tous les domaines. Et c'est la raison pour laquelle, quand on sort de Kippour, on ressent quand même une forme de joie si on a essayé de faire ce travail. Parce que ces moments d'honnêteté, ces moments de franchise, ces moments dans lesquels on a arrêté de se raconter une histoire, eh bien, ils sont rares, ils sont précieux, et ce sont des moments de vérité, ce sont des moments de rencontre avec le Créateur de l'univers. N'oublions pas qu'il y a marqué que « Rotamo shel HaKadosh Baruch Hu Emet ». Là, le sceau de Dieu, c'est « Emet », c'est « vérité ». Se retrouver dans ces moments de vérité, c'est au fond un pur bonheur, si on réfléchit. Et ça, c'est peut-être l'élément sur lequel on devrait essayer de travailler un tout petit peu plus. Parce que nous sommes spécialistes dans les constructions de systèmes qui nous permettent de nous engoncer à l'intérieur d'un modèle de fonctionnement et le perpétuer de manière constante. Voilà un petit peu l'ouverture, en tout cas que on devrait peut-être essayer de prendre lorsqu'arrive Kippour, en essayant de se dire, mais au fond, pourquoi ? Pourquoi nous ne voulons pas être dans le mouvement ? Pourquoi nous ne désirons pas devenir une version de nous-mêmes améliorée ? Pourquoi nous n'avons pas cette volonté à un moment de nous dépasser, alors que dans d'autres domaines, eh bien, nous voyons bien que nous sommes capables justement de nous dépasser parce qu'on y trouve un intérêt propre. Et découvrir au fond quel est le bonheur de réaliser que nous sommes, et je le redis à nouveau, des êtres perfectibles, des êtres qui n'ont pas peur de se confronter à eux-mêmes, des êtres qui n'ont pas peur de découvrir qu'il y a encore des zones de progression extrêmement réelles dans notre existence, chacun là où il se trouve. Et avec cela, évidemment, on sort de Kippour avec cette joie profonde et ce désir d'aller, évidemment, après vers cette fête de Soukhot qui, elle, va nous permettre d'exprimer cette joie au maximum. Et je veux juste conclure sur un point. Vous savez que Kippour, on termine avec la prière de Nehila. Or, dans cette dernière prière, on rajoute quelque chose. On dit « Adieu, Valnerdal, Moshek Yadeno. On ne veut pas trébucher à cause du vol. » Alors, c'est quoi le vol, au fond ? Eh bien, le vol, c'est s'approprier quelque chose qui ne nous appartient pas. Ou alors, je vais vous donner un exemple très simple. Si je travaille pour une société, qu'on a mis à ma disposition une voiture, et que j'utilise cette voiture pour devenir Uber, je vole. Pourquoi ? Parce qu'on m'a donné cette voiture pour, en effet, aller remplir d'autres missions. Et à la fin de Kippour, on est en train de réfléchir, on se dit, Hachem nous a donné la vie, il nous a donné de l'énergie, il nous a donné des forces. Mais pourquoi il nous les a données ? Parce qu'il attend de nous qu'on les utilise d'une certaine manière. Alors Dieu, s'il te plaît, fais en telle sorte que nous ne trébuchions pas à cause de ce vol qu'on a tous commis un jour, c'est-à-dire de n'avoir pas utilisé ce que tu as mis à notre disposition pour la raison pour laquelle tu nous l'as donné. Avoir cet état de conscience, avoir ce désir d'utiliser le mieux possible ce qu'Hachem met à notre disposition par rapport au projet qu'il attend de nous, voilà peut-être une des plus belles choses que l'on peut se souhaiter dans un moment aussi exceptionnel que ce moment de Kippour.
Avec cette idée que tout le monde répète en ce moment, mais vous me corrigez si je me trompe, de prendre une petite chose. Parce que vous parliez de marge de progression, sortir de... Je vous écoutais évidemment très attentivement. On dit prendre c'est une sûr. Petite chose. Alors, celui qui ne fait pas la prière le matin, eh ben, il met les tef. Celui qui... on allume les bougies. On ne dit pas, ah mais non, on allume les bougies seulement si on est chômeur Shabbat. On appelle sa maman, vendredi après-midi. Voilà, petite exact. Chose.
Exact. C'est-à-dire qu'il faut, en effet faire en telle sorte que ça soit suivi d'une action. Comme vous le dites parfaitement bien, cette action va être petite peut-être, mais la constance que l'on va y mettre va lui donner un impact qui va au-delà de ce que l'on peut imaginer, qui nous ouvrira à ouvrir encore vers d'autres actions, évidemment.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. C'est valable aussi pour les plus forts. Hein. On peut faire une Mishnah, on peut faire...
oui,
les très forts, ils font un daf. C'est valable pour tout le monde. Et je vous souhaite Shabbat Shalom et de très, très belles fêtes de Kippour, parce que Kippour est une fête. Donc, très belle fête de Kippour et Gmar Hatima Tova, Rav Eli Lemel.
Shabbat Shalom et Gmar Hatima Tova.
Et nous sommes en ligne à Jérusalem avec Rav Mordechai Bitton. Bonsoir Rav Mordechai. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Bonne fête de Rosh Hashanah.
Bezrat Hachem, on le saura l'année prochaine, mais en tout cas, on a ressenti des bonnes ondes.
J'adore la réponse. Vous avez remarqué la réponse du rabbin. On le saura l'année prochaine. Parce qu'il faut savoir qu'il veut savoir comment se passe l'année. C'est comme ça qu'il saura s'il a passé un bon Rosh Hashanah. Rav Mordechai Biton, après Rosh Hashanah, spécial Kippour. Et vous voudriez, vous, faire le lien avec notre paracha, qui est la parachat Azinu. Et en gros, si je comprends bien le sens de votre propos, vous dites, s'interroger sur la justice divine, tout le monde le fait. On se demande tous pourquoi, il y a des punitions, il y a tout ce qu'on nous raconte. En plus, on a souvent mal digéré ce qu'on a entendu quand on était gosse. Donc voilà, on imagine un gros bâton. La justice, on a compris. À peu près, en tout cas, on a une idée. Et c'est vrai qu'on est très nombreux, moi le premier, à ne pas vraiment s'interroger sur l'idée de pardon. Parce que pardon, c'est facile. Voilà, on a été pardonné, Baruch HaShem. Mais vous voulez nous dire ce soir qu'on devrait s'interroger autant sur l'un que sur l'autre, que les deux d'abord déjà sont évidemment liés, mais l'idée de pardon aussi, on fait un peu l'impasse, alors que c'est aussi une notion difficile à comprendre, ou en tout cas à comprendre, ou à accepter ou à intégrer.
Oui, parce que en fait, on s'interroge sur la justice divine, parce que la justice divine, ça fait mal. Ouais. Hachem envoie sur l'individu ou sur le peuple d'Israël des décrets, et ces décrets, ils sont accompagnés de douleurs. Alors quand ça fait mal, on crie. Mais quand ça fait du bien, alors ça nous est dû. D'une certaine manière, de manière consciente ou inconsciente, finalement on pense que le pardon nous est dû. Hachem a introduit la tribu de miséricorde dans le monde, il a introduit la tchouva, la possibilité de la tchouva dans le monde, il a fait ce cadeau magnifique de pouvoir tout remettre à zéro, de remettre les compteurs à zéro chaque année sur le plan spirituel, psychique et mental. D'une certaine manière, ça nous est dû. Mais dans le principe, c'est quelque chose qui devrait soulever exactement les mêmes questions. Comment se fait-il qu'Hachem va accorder sa teshuva? Parce qu'à Yom Kippour, on va pleurer, on va implorer, on va s'excuser auprès d'Hachem et on va prendre sur nous de ne pas recommencer. C'est de la même manière tout aussi improbable, tout aussi incompréhensible. Je ne comprends pas la justice, je ne comprends pas non plus que la logique du pardon. Je vais même aller un peu plus loin. C'est que dans les relations interpersonnelles, on a beaucoup de mal à pardonner. Et ce qu'on exige d'Hachem, on ne l'exige pas forcément de nous. Et d'ailleurs, Rabbi Moshe Cordovero, dans le palmier de Déborah, explique très bien que les 13 attributs de miséricorde qu'on va invoquer tout au long de Kippour, on va dire à Dieu, tu es miséricordieux, long à te mettre en colère, tu es plein de bonté, etc., gracieux, etc. Il dit, ces 13 attributs de miséricorde, c'est un programme éducatif pour nous. C'est-à-dire que si nous, on est capable de les appliquer dans les relations interpersonnelles, alors Hachem pourra les appliquer vis-à-vis de nous. Donc, en vérité, le programme du pardon, nous-mêmes, on a un effort énorme à fournir pour le faire. Mais quand il s'agit d'Hachem, ça devient naturel. Ça nous est dû, en quelque sorte. Le fait qu'on ne questionne pas assez le pardon montre que, d'une certaine manière, on n'a pas compris la profondeur de ce concept et sa pertinence. Et la profondeur de ce concept tient sur un mot, qui est le chesed d'Hachem, la bonté d'Hachem. Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire, et c'est comme ça qu'il faut le vivre. Et il faut être éperdu de reconnaissance, comme on serait éperdu de reconnaissance vis-à-vis de quelqu'un qui nous aurait donné une grosse somme d'argent pour nous tirer d'un mauvais pas sur le plan financier. Être éperdu de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem, c'est un cadeau inimaginable au sens premier du terme, puisque nous avons les pires difficultés à l'imaginer nous-mêmes dans nos relations interpersonnelles. Et donc nous voyons bien que c'est quelque chose qui n'appartient pas à l'ordre de la réflexion humaine. C'est ça qu'il faut comprendre dans un premier temps quand on aborde Kippour. C'est un cadeau extraordinaire. Et c'est tellement extraordinaire comme cadeau que la Gemara, dans Yoma, précise qu'il y a une discussion entre nos sages pour savoir si le jour lui-même de Kippour pardonne, permet d'apporter l'expiation et le pardon, même si on n'a pas fait de tshuva, ou alors est-ce qu'il faut faire tshuva? Et la réponse, elle est qu'il faut quand même faire tshuva pour obtenir l'expiation que ces 24 heures amènent à tout individu qui va jeûner pendant ce jour-là. C'est un cadeau absolument d'abord inimaginable. Et il faut d'abord remercier Hachem de ce cadeau, avoir conscience ici que c'est un cadeau. Et donc la deuxième chose ici, c'est effectivement après d'utiliser ce cadeau. Si on va faire un cadeau magnifique, mais il faut que je l'utilise. Alors, comment je vais utiliser ce cadeau? Justement, je vais l'utiliser, comme on l'a dit dans notre discussion avant d'enregistrer cette émission. Effectivement, l'émission. J'ai utilisé vis-à-vis de des autres. Oui, je vais apprendre à l'utiliser vis-à-vis d'autres. Mais je vais l'apprendre à l'utiliser pour autre chose. De la même manière que Hachem m'a laissé 70, 80 ans, non, il m'a laissé 70 ou 80 ans ou 90 ans pour vivre, 70 ou 80 comme c'est marqué dans Tehillim, moi-même, je vais savoir que ce cadeau est un cadeau qu'il faut savoir utiliser. Il a son mode d'emploi. Hachem ne demande pas à Yom Kippour de faire un changement drastique à 180 degrés. Il me demande une chose. Il me demande de marquer ma volonté. Là, maintenant, vous allez écouter cette émission avant Shabbat, on a encore quelques heures jusqu'à Kippour pour prendre des décisions et pour montrer qu'on regrette. En fait, c'est ça qu'il nous a demandé. C'est travailler finalement la notion de regret. Le regret pour nos sages est comparé à déraciner la volonté de la faute. Quand je travaille mon regret, et c'est finalement c'est ça qu'il faut savoir faire, il faut savoir et comprendre à quel point certaines attitudes nous éloignent d'Hachem. Le lashon hara, la médisance, la cruauté dans les rapports à autrui, évidemment, de négliger le Shabbat, négliger la tzniout, la pudeur. Il y a toutes sortes de règles qui nous éloignent du vertement d'Hachem. Je choisis celles-là parce que celles-là sont montrées par nos sages et par la Torah comme étant des règles qui, si on les enfreint, elles ont cette incroyable capacité de nous éloigner d'Hachem et d'éloigner Hachem de nous. Donc oui, effectivement, il faut savoir regretter, il faut savoir montrer qu'on regrette, se dire qu'on regrette, savoir faire cet examen de conscience et prendre sur soi une décision. Une décision, une seule, pas plus. On n'a pas besoin de faire de plus que ça. On a besoin de prendre sur toi une décision, mais une décision qui nous engage sur quelque chose qui va forger quelque chose dans notre emploi du temps et dans notre personnalité. Et ça, c'est le bon emploi de Kippour. La paracha Ta'azinu, c'est une paracha qui parle en fait de l'exercice de la justice divine tout au long de l'histoire du peuple juif de manière allégorique, parce qu'elle est écrite comme une prophétie. Et c'est une paracha qui nous invite à nous interroger en fait sur la manière dont Hachem gère sa relation avec le peuple juif. Mais à la veille de Kippour, comme je l'ai dit, il faut quand même se poser la question du pardon et y répondre en se disant que là, il y a un cadeau qu'il faut absolument saisir et pour lequel, d'abord, il faut remercier Hachem. Voilà, je pense que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut arriver à Kippour et ensuite, après, rentrer dans la logique du regret, du travail sur soi, etc. Et puis ensuite, après, sortir de Kippour. Il faut se rappeler que Kippour, avec le 15 Av, faisait partie des journées les plus joyeuses du calendrier parce que c'est un jour qui nous ouvrait la porte à l'expiation. On était allégé sur le plan spirituel, et donc on repartait avec des forces nouvelles. Et donc, c'est en quelque sorte un jour qui nous invite aussi à la fois à la méditation, en même temps à l'action, mais en même temps aussi à une grande joie. Savoir qu'on est les enfants d'Hachem, savoir qu'on est le peuple d'Hachem et qu'Hachem nous a fait ce cadeau-là. Voilà, je pense ici le rapport qu'on peut établir, et puis se souhaiter à toutes et à tous, Gvar Chatzimah Tova, qu'on soit Chotem. Il reste quelques heures à chacun d'entre nous pour arranger, comme on dit, ses relations interpersonnelles et puis aussi réfléchir un petit peu à la nouvelle relation qu'il aura avec Hachem.
À vous aussi, Rav.
Gmar Chatzimah Tova à toutes et à tous.
À vous aussi, Gmar Chatzimah Tova. Et j'ai bien entendu ce que vous avez dit parce que moi, je me suis déjà posé la question très franchement. Je ne suis pas très fier. J'ai bien l'air, tu fais un peu de cinéma quelque part parce que, voilà, Kippour, je viens, je veux ça. Oh, quelque part, tu sais que le lundi suivant, tu ne parleras pas pareil. Soyons honnêtes. Et vous êtes en train de nous dire quelque chose de... Ouais, je suis très honnête hein, ce soir. Mais vous êtes en train de nous dire non, mets-toi dans une disposition, pas une posture. Une disposition. Mets-toi dans une façon de... Voilà, comme quand tu vas par exemple à un dîner, tu parles sérieusement avec la personne avec qui tu parles. Quand tu as une explication avec quelqu'un, tu lui expliques sincèrement ce que tu penses. Je trouve ça très intéressant ce que vous avez partagé avec nous ce soir, Mordechai Biton. Je vous souhaite,
à tous bon courage. Parce qu'on a passé,
oui,
en fait,
ça me demande du courage.
On a passé une année quand même au niveau collectif, au niveau du peuple juif. Individuellement, chacun fait ses comptes, mais collectivement, on a quand même passé une très sale année.
Ouais.
Donc, on a besoin quand même de se ressourcer et puis de replacer les choses dans leur juste proportion. Il y a des choses qui sont importantes, des choses qui sont fondamentales. La relation avec Hachem, la relation à l'autre, et la capacité d'écouter d'entendre, écouter et entendre et comprendre dans la relation à l'autre et dans la relation avec Hachem. Ça va ensemble. C'est des capacités que nous avons développées et voilà, on a fini une année qui ne s'est pas bien passée. Il faut que l'année prochaine, on réfléchisse à ça. On réfléchisse à qu'est-ce qu'on a à se dire les uns les autres et qu'est-ce qu'on peut dire à Hachem et qu'est-ce qu'Hachem nous dit. Voilà.
Rav Mordechai Biton, d'abord avant tout, Shabbat Shalom. D'abord parce que Shabbat c'est dans shalom. Le temps, et puisque vous êtes l'un de ceux qui nous avaient appris que Shabbat, c'est la plus belle des fêtes. Alors, d'abord Shabbat Shalom, et après, de bonnes fêtes de Kippour. Gvar Chatzimah Tova.
Merci à toi.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué.
Bonsoir, et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom, et de Gmar Hatima Tova, et de belles fêtes de Kippour, puisqu'on l'a dit, Kippour est une fête. Rav Gué, vous voulez insister, vous, ce soir, sur le fait que c'est très important d'accueillir tout le monde à Kippour, ça on le sait évidemment, mais vous voulez aussi insister sur le fait qu'il faut accueillir même ceux qui ne sont pas pratiquants, et que non seulement ça ne diminue pas notre prière ou notre tchouva, ça l'augmente. Alors expliquez-nous.
Alors je cite une Gemara dans Kritout, page 6. Amar Rav Chana Bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Kol ta'anit, tout jeune, she'en ba mitoshei Yisrael, dans lequel ne participent pas les mécréants d'Israël, et na ta'anit, ce n'est pas un jeûne. Shehare, car voici chelbena reachra. Le galbanum a une mauvaise odeur. Umena'a hakatuv im salame haketoret. Et le verset l'a cité avec les ingrédients des ketoret. Les ketoret, ce sont les encens brûlés quotidiennement dans le sanctuaire, dans le Beth Amikdash, à l'époque donc, où il y avait le Beth Amikdash, et on cite les Ketoret tous les jours, avant la Tfila, après la Tfila du Shacharit et avant Mincha. Qu'est-ce que nous dit ici la Gemara dans Kritout ? Elle dit quelque chose de très étonnant. Elle nous dit que le Ta'anit, le jeûne, n'est pas validé, ce n'est pas un jeûne, s'il n'y a pas dedans des poches et Israël, si ne s'associe pas à ce jeûne, des juifs non pratiquants, non, enfin plutôt même...
qui font des péchés, on pourrait dire qu'ils font des péchés, non?
Effectivement, péchés, mais en général, c'est même pire, c'est des gens anti, qui sont vraiment contre, qui sont même des fois réfractaires. En tout cas, leur présence n'est pas simplement tolérée, elle est même indispensable. Elle valide le jeûne. Et d'où on l'apprend ? On l'apprend des ingrédients des kétorettes. Les kétorettes, c'est donc 11 ingrédients. Pitoum à kétorettes, on le dit, comme je dis régulièrement. Et dans lesquels il y a un élément qui sent mauvais. Le 11e, la chelbena. Et en fait, nos sages nous expliquent que la chelbena, cet élément qui dégage une mauvaise odeur, non seulement ne dégage pas de mauvaise odeur, c'est pas qu'elle est simplement étouffée par la présence des dix éléments qui dégagent une bonne odeur, c'est que tout simplement la mauvaise odeur mélangée aux 10 autres donne une excellente odeur, quelque chose de meilleur que s'il n'y avait pas cet 11e élément qui est a priori est négatif et devrait même nous déranger. Non seulement elle ne dérange pas, mais en plus elle sublime, donne plus une meilleure odeur au reste. Et c'est intéressant de voir que nous sommes à quelques jours aussi de Sukkot. Et dans Sukkot, dans Menachot, page 27, la Gemara nous dit qu'il faut 4 espèces dans la loulav. Dans le loulav, hein, on sait tous qu'il y a 4 espèces. Les trog, le loulav, les lahadassim et les aravot. On sait très bien que certains en font des fruits. Par exemple, le loulav, c'est un palmier dattier. Le trog, c'est lui-même un fruit. Mais le myrte et la harava, le sol, ne produisent pas de fruits. Et dit ceux qui font des fruits ont besoin de ceux qui n'en font pas. Alors là, c'est vraiment incroyable. Ceux qui font des fruits, vous avez compris que c'est une image qui veut dire les tzadikim, qui créent des ma'asim tovim, des bonnes actions. En face d'eux, il y a les rechaim, qui eux ne créent pas de bonnes actions. Mais on nous dit qu'il faut les réunir, une seule agouda, un seul élément, pour faire en sorte que, un, les tzadikim ont besoin des rechaim, alors que les rechaim, les mécréants, aient besoin des tzadikim, ça se comprend. Mais l'inverse, les tzadikim ont besoin des rechaim, des mécréants. Alors ça, c'est quelque chose d'incroyable. On comprend que les rechaim ont besoin des prières des tzadikim. Mais pourquoi les tzadikim auraient-ils besoin des réchaïm? En fait, l'idée ici très importante, c'est que nous disons tous les jours Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. On parle toujours de Achdut Hashem. Hashem, il est Echad. On nous dit dans la Gemara que Akadosh Baruch Hu, Dieu, a des téphilines, des phylactères, dans lesquels il est écrit Mikamcha Israël, Goy Echad Baret. Dieu se glorifie d'avoir un peuple qui a qui est un Echad. Lui, il est Echad, il est un, unique, et nous aussi, le peuple juif, on est Echad. Ça veut dire notre capacité à comprendre que nous devons absolument sortir de notre égocentrisme et de notre réflexion purement, on va dire, au singulier, et de regarder notre nombril, c'est tout simplement le contraire de ce qu'est Hachem Echad. Hachem Echad, il est un, nous, nous sommes un seul peuple. Et cette capacité de raisonner en termes de Klal Israël, d'un peuple uni, c'est quelque chose qui doit faire l'objet d'un effort, d'un travail. Et en particulier le jour de Kippour, où nous sommes tous en train d'implorer, de demander à Dieu la miséricorde divine, là, alors là, sans la présence de ces personnes qui sont différentes de ceux qui sont pratiquants de la synagogue, tout simplement, les prières n'ont pas la même valeur, voire même ne sont pas validées, si on n'est pas capable de les intégrer, de les recevoir, de les motiver, et tout simplement de leur montrer qu'ils font partie du seul d'un peuple juif qui est uni. Et même si on a des différences, on est uni. Évidemment, je voulais rappeler cet enseignement tellement important à la veille de Yom Kippour pour nous dire tout simplement que pendant cette période, sortir de son égocentrisme, c'est pas seulement de penser à l'autre par la tzedaka, c'est sûr, c'est important de faire la tzedaka, en particulier la veille de Kippour. C'est important de prier pour tout le peuple juif, toute l'année, mais évidemment la veille de Kippour encore plus, et le jour encore plus. Mais si on veut tout simplement s'en sortir, eh bien il faut qu'on s'en sorte tous ensemble. On ne pourra pas s'en sortir si on n'est pas Echad, si on ne raisonne pas en termes d'unicité, si on est au singulier. Eh bien en fait, il faut parler au singulier, mais en pensant à tout le peuple juif, c'est au pluriel. Le singulier, c'est tous ensemble. Et pour cela, il y a une urgence, c'est d'y arriver justement à ce jour de Yom Kippour. J'ajouterai juste une chose, c'est qu'une des bases des relations humaines apaisées, c'est l'interdiction de la Torah de Lo Tahmod, l'interdiction de convoiter. Et le Rav Yonatan Haïbeshit, Zichrono Livracha, dans son livre Yaarot Dvash, nous dit que les 10 jours qui sont depuis Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, appelé les 10 jours de pénitence, c'est en fait 10 jours qui correspondent aux 10 paroles. Les 10 paroles enseignées à Moshe au Sinaï, et que ces 10 paroles, elles commencent par les 2 premières paroles, « Je suis Hachem, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte ». Ensuite, l'interdiction de servir des idoles, « Lo yelecha Elohim acherim ». Donc ça, c'est les 2 premiers jours de Rosh Hashanah. Et la dernière parole, c'est « Lo tahmod », interdiction de convoiter. L'otit ave, ne désire pas ce qui est à l'autre. En fait, tout simplement, la capacité d'être satisfait de ce qu'on a, mais surtout de ne pas désirer ce que l'autre il a. Parce qu'il a, alors je voudrais avoir la même chose. Eh bien, tout simplement, si on arrive le jour de Kippour à avoir un regard sur le bien d'autrui, qui est un regard tout simplement de quelqu'un qui n'a aucun intérêt, aucun regard sur l'autre, simplement ce qu'il cherche, on cherche tous. Et au contraire, le bien de tous devant Dieu. Donc une unicité, d'ailleurs le jour de Kippour, il n'y a pas de différence sociale. Tout le monde est assis les uns à côté des autres. On ne mange pas, on n'a pas l'occasion de faire l'hygiène qu'on aime faire d'habitude. On se prive de plein de choses. On a des chaussures en toile, voire pas de chaussures du tout. Donc finalement, on est dans la simplicité. Et dans cette simplicité, on se retrouve tous dans l'otahmod, l'interdiction de regarder chez l'autre ce qu'il a, et regarder plutôt ce que nous sommes, pas ce que l'autre a, et ne pas se définir en fonction de ce que nous avons et de ce que nous avons de plus que l'autre. C'est être soi-même face à Dieu dans laquelle la vérité éclate, et ce que nous sommes vraiment doit être la seule valeur qui est retenu par nous ce jour-là. Alors, c'est le jour de la simplicité, du Inouï, en même temps, un jour incroyable, extraordinaire, et nous devons remercier tous les jours Hachem d'avoir la chance qu'un jour par an, on puisse se retrouver tous à la synagogue pendant 24 heures, j'exagère un peu, pendant plusieurs heures, et qu'à la fin de cette journée, Neïla, eh bien, sortons tous blancs, comme neige, purifiés, transformés, transcendés, transportés, et nous vivions des moments pleins d'extase, pleins de joie profonde, une joie celle d'être peuple juif face à son peuple, face à son Dieu, un peuple uni, profondément uni, devant son Créateur. Voilà ce que je voudrais souhaiter à toute la communauté, c'est Shana Tova, Hatima Tova, très très bonne signature. On est véritablement cette année une année de Ahdout, d'unité retrouvée, et véritablement de prospérité et de sérénité.
Amen.
Et d'amour pour la Torah et les mitzvot, de ma'asim tovim, de bonnes actions, et véritablement que cette année soit une année charnière dans laquelle nous voyons le peuple juif faire un grand tournant, le tournant vers Hachem et vers l'unité du peuple.
Amen. Et donc, on a bien compris, on n'exclut personne, donc a fortiori ses enfants, on leur dit pas oui, pourquoi tu fais comme ci, tu fais comme ça. On est tous ensemble, mais peut-être une idée, on peut donner un coup de fil aussi, dimanche après-midi, un frère, une sœur, qui n'est pas forcément très religieux, un ami d'enfance, et sans lui faire la moindre remontrance, j'ai bien compris de ce que vous nous dites, c'est pas du tout votre propos, lui dire, de lui souhaiter de bonnes fêtes, et c'est peut-être un moyen de le rapprocher aussi de la fête de Kippour.
Oui, je rappelle à tout le monde, effectivement, comme vous le dites, que les belles coups de fil dont vous parlez, c'est déjà pour demander Mechila, pardon à tous ceux qu'on aurait pu froisser, etc., de restituer ou de rendre les dettes qu'on a, ou en tout cas de commencer à les rendre. Bref, d'essayer de régler toutes les tensions que nous avons avec les uns et les autres. Et même dans la famille, comme vous dites, il faut toujours garder des bonnes relations. L'idée, c'est de vraiment nettoyer, de commencer une nouvelle page, en particulier dans les relations humaines, puisque nous savons que Dieu ne pardonne que si les hommes ont pardonné.
Rav Guéh, je vous remercie, je vous souhaite de bonnes fêtes. Gmar Khatima Tova.
Pour vous aussi, très très bonnes fêtes.
Voilà, cette émission est à présent terminée. C'est à mon tour de vous dire d'abord déjà Shabbat Shalom et de vous souhaiter de belles et de très sereines, comme disait Rav Guéh, de très sereines fêtes de Kippour. Excellente soirée à tous. Je vous retrouve à 18h pour un journal très important au lendemain de les déclarations du prince saoudien qui annonce qu'il normalise ses relations avec Israël, et ce journal est enregistré. Excellente soirée à tous.